Papa, il mangeait des épinards puis il était fort. J'ai compris que c'est pas toujours vrai ce qu'on voit avec les bandes dessinées. J'ai mangé une volée. Et papa, j'en parle parce que papa, il disait quelque chose. Il y avait une phrase qu'il disait tout le temps. Il dit « Je suis ce que je suis, puis c'est ça que je suis. » C'est la phrase qu'il disait tout le temps. Et puis les gens disaient « Ben, tu peux pas faire ça comme ça. Ben, je suis comme ça, puis c'est comme ça. » Est-ce que ça vous arrive des fois de faire des choses, de dire « Ah, c'est pas ça que je veux faire. Pourquoi j'ai encore fait ça? » C'est pas ce que je veux faire, mais je fais encore ça. Pourquoi j'ai encore regardé ça? Pourquoi je suis allé encore là? Pourquoi j'ai parlé encore comme ça à mes enfants? Pourquoi j'ai encore traité l'autre comme ça? Pourquoi je me suis laissé faire ça encore? Pourquoi j'ai toléré ça? Pourquoi? Puis on peut dire, ben, c'est comme ça, puis je suis comme ça, et puis et on ne peut pas changer ça, mais c'est un mensonge. Et le message de la Bible nous dit qu'il y a moyen de changer ça, qu'il y a des solutions. Il ne faut pas croire le mensonge qu'on ne peut pas vivre des transformations, des guérisons, être libéré de ces habitudes-là, des comportements qu'on a qu'on ne veut pas dans notre vie, mais qui reviennent tout le temps. On est pris avec ça, et puis ça revient, ça revient, ça revient. Et peut-être qu'un jour, on a dit oui à Dieu. On a choisi de suivre Jésus, mais on est pris encore avec ces habitudes qu'on n'arrive pas à se défaire. On est pris avec ça. Paul disait à Timothée, « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Saisis la vie éternelle. Et là, je vous fais une parenthèse, parce que ce matin, ce qu'on va faire, c'est on va voir qu'est-ce que la Bible dit. C'est quoi le message de la Bible? Parfois, des gens me disent, c'est quoi justement le message de la Bible? De quoi qu'elle parle la Bible? Et j'ai pris l'habitude sur une napkin de faire un petit dessin pour expliquer le message de la Bible d'un couvert à l'autre, l'histoire de Dieu. Ce matin, je ne ferai pas un dessin sur une napkin. J'ai monté quelque chose visuel. Tout va se passer à l'écran. Tout va se passer à l'écran. Donc, quittez pas l'écran des yeux. Je vais même tasser ça pour me tasser encore plus. Paul dit à Timothée. Timothée est un homme de Dieu solide. Paul, c'est Timothée qui envoie pour mettre de l'ordre dans les églises, pour rectifier le tir dans les églises, pour nommer et trouver les leaders qui sont fermes dans la foi. Paul envoie Timothée pour ça et il dit à Timothée, « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Et le mot « saisir » ici, il y a plusieurs sens. Et le mot qui est utilisé a tous ces sens-là. Saisir, c'est... Tu sais qu'on dit là, est-ce que tu saisis ce que je veux dire? Tu sais, c'est dans le sens... Comprends. Mais ça veut dire aussi, approprie-toi-le. Prends-le. Saisis-le pour toi. Cette vie éternelle. Et je fais une parenthèse aussi ici. Le mot vie éternelle qui est utilisé là, c'est en grec, ils utilisent le mot zoé. Je fais une parenthèse avec ça parce que je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Il lui dit aussi, c'est cette vie-là à laquelle tu as été appelé, comme chacun de nous. Et cet appel-là à saisir la vie éternelle aussi, c'est cet appel-là que chacun de nous autres, on a. Dieu nous dit, saisis cette vie-là à laquelle tu as été appelé, vous et moi, toi et moi, chacun de nous. Fait que ce matin, ce que je veux faire, c'est vous raconter l'histoire de la Bible. À partir de Genèse 1, 2, 3, et on va regarder plusieurs textes parce que je veux vous montrer que la Bible dit un message cohérent d'un couvert à l'autre. Vous êtes prêts? OK. Le message de la Bible, Genèse, commence avec Dieu. Dieu a créé la vie. Déjà au début du message de la Bible, l'auteur veut nous faire comprendre que Dieu est derrière tout ça. Dieu est l'initiateur de la vie, il est à l'origine de la vie. Donc, on va emmener la vie à l'écran ici. Mais le mot qui est utilisé quand Dieu a créé la vie, c'est le mot « bios » qu'on a là. D'où on a le terme « biologique ». Y a-t-il des outardes qui ont passé? Oui, ils s'en vont dans le sud, eux autres, là. Et puis, j'aimerais ça y aller aussi, mais ça ne sera pas tout de suite. Le mot qui est utilisé quand Dieu créa la vie, c'est le mot « bios ». D'où on a le terme « biologie ». La vie biologique. Ensuite de ça, il nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Donc, à partir de cette bios, Dieu a formé un homme qui s'appelle Adam. Adam veut dire le premier homme, le premier être vivant. Dieu nous dit qu'à partir de cette bios, il a créé Adam. Ça va, ça ne devrait pas aller plus loin. Non, là, OK, oui, c'est une bonne idée. Fais juste attention, pas tirer sur le fil pour déconnecter, mais... OK, je te laisse aller avec ça. Donc, ensuite de ça, Non. Peut-être, t'arrives-tu à le mettre ici, non? OK, s'en occupe. Donc, ensuite de ça, la suite de ce texte-là est assez intéressante parce qu'il fait quelque chose qui est assez unique. Le texte nous dit qu'il est insufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie. Et l'homme, Adam, devint un être vivant. C'est assez particulier, ça. Il nous dit que Dieu a insufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie. Donc, cette vie qu'on a là, Dieu a mis ça en Adam. Déjà, la Bible veut nous dire, nous faire comprendre que l'être humain a un statut particulier dans toute la création. Il n'a pas fait ça avec les bébés tapatates. Il n'a pas fait ça avec les girafes. Il n'a pas fait ça avec le singe. Dieu a insufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie. Donc, il devient vivant. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'on prend ce souffle de vie et on le met en Adam. Et regardez bien Adam ici. Adam est devenu vivant. Adam est devenu de même nature que Dieu. Vous avez vu la couleur changer. Adam est devenu de même nature que Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, mais de même nature, de la même essence que Dieu. Il y avait cette vie de Dieu en lui, ce qu'il n'y avait pas avant. Ce que les autres êtres créés n'ont pas, ils n'ont pas cette vie de Dieu. Et Dieu, déjà en partant au début de la Bible, dans les deux premiers chapitres, il veut nous faire comprendre que l'être humain a un statut particulier. Il est le seul être humain sur terre, seul parmi toute la création, où il y a cette vie de Dieu en lui. Ensuite de ça, il est écrit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui créer, je vais le secourir en lui faisant un partenaire qui sera son vis-à-vis. Et alors, il a créé Cindy. Cindy, c'est mon épouse, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a créé Ève. Ça, c'est pour moi. Pour moi tout seul. Mais pour vous autres aussi, mais à d'autres niveaux. Donc, Dieu a créé Ève. Et parce que Ève a été créée ou tirée d'Adam, qui avait cette vie de Dieu en lui, Ève avait cette vie de Dieu en lui aussi. On voit que Dieu se soucie du bien-être de l'être humain. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu se soucie de son bien-être, de sa joie, qu'il soit bien, qu'il soit content. Et ça, ça crée une relation à cause de ça. La Bible nous dit que Dieu a une relation, il désire une relation avec Dieu. Dieu désire une relation avec l'être humain, avec l'homme, la femme. Dieu est un être relationnel. Il veut cette relation. Il se soucie du bien-être de l'être humain. Son souci fait que l'être humain est clair sur son identité. L'être humain est clair sur son sens dans la vie. Il sait qu'il est à l'image de Dieu. Homme et femme, les deux sont à l'image de Dieu. Pas un peu plus que l'autre. Les deux sont à l'image de Dieu. Cette réalité-là, de cette vie avec Dieu, de cette union avec Dieu, de cette vie avec Dieu, fait qu'ils sont unis. Et cette union-là, cette vie de Dieu qui est en lui, fait que l'être humain a une identité claire. Il sait où il va, il sait qui il est, il se sait aimé, il sait que Dieu prend soin de lui, il se soucie de son bien-être. Ensuite de ça, il est dit, Dieu les bénit, il leur dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez maîtres sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Si je vous dis, là, moi, je suis propriétaire d'à peu près tous les terrains, les bâtiments, les commerces de l'Assomption. Je vous aime. J'ai confiance en vous. Je sais ce que vous avez en vous. Je vous mets en autorité sur tout ça. Tout ça est à vous, maintenant. Hey, je me sens valorisé. Je sens que mon estime en prend un bon coup. Ça me donne un sentiment d'autorité. Et Dieu montre la valeur à l'homme qu'il a en le plaçant au-dessus de tout. Il lui donne une autorité au-dessus de toute la création. Tu vas être en charge de la création. Tu vas prendre soin de la création. Tu vas être en autorité sur la création. Ensuite de ça, il est dit, dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences sera votre nourriture. Ce que Dieu est en train de dire là, c'est que je vais prendre soin de vos besoins essentiels. Tu n'auras pas à t'inquiéter, à avoir de l'insécurité sur qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire. Je vais prendre soin de vous. Ça l'amène un sentiment de sécurité profond, une paix profonde dans le cœur de l'être humain. C'était des privilèges de cette vie avec Dieu que l'être humain avait. À cause de cette vie de Dieu en lui, il y avait ces privilèges-là, une identité claire, un sens pour sa vie, un amour, une joie. Il se savait aimé. Il savait que Dieu, sa joie dépendait de Dieu. Il se savait qu'il y avait une valeur inestimable pour Dieu, qu'il était en autorité, qu'il pouvait être sécure. Tous des privilèges de Dieu. L'être humain avait tout, tout pleinement en Dieu. Puis Dieu a donné un commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, Dieu explique à l'être humain, il dit, tu as des limites. Il met une mise en garde. Il dit à l'être humain, il dit, tu es créé pour faire à peu près tout ce que tu veux. Il y a une chose que tu ne peux pas faire. Essayez toi-même de définir ce qui est bien, ce qui est mal. Là, il va falloir que tu dépendes de moi pour ça. Il va falloir que tu t'en remettes à moi. Tu vas être un être dépendant. Mais l'être humain n'aime pas ça être dépendant. Mais on est dépendant. Chacun de nous autres, on est dépendant. On dépend de l'air pour vivre. On dépend de l'eau pour vivre. On dépend de la nourriture. On enlève ça et ça ne marche pas. Mais Dieu est en train de nous dire aussi, tu es dépendant de moi. Ce qui a trait à la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas essayer de croire par toi-même ça, ça va être la mort. Et ce n'est pas parce que Dieu est méchant, Dieu met une mise en garde. Dieu ne veut pas que personne meure, mais Dieu met une mise en garde. C'est comme si tu as un enfant dans la maison, tu dis, « Hey, tu peux faire ce que tu veux, mais je suis en train de faire à manger. Mets pas ta main sur le rond de poêle. » Parce que le jour où tu vas mettre ta main sur le rond de poêle, tu vas te brûler. Et on est créé pour être en relation avec Dieu. Dieu est un être relationnel, il nous a créé pour être en relation avec nous. Et le jour où on dit, non, j'ai plus besoin de toi, je veux définir moi-même ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est un mensonge, ce qui est bon, ce qui est mal, tu vas mourir. Et l'être humain a cru un mensonge. La Bible nous fait savoir, on est juste au chapitre 3. L'être humain a cru un mensonge. Le mensonge de dire que peut-être Dieu, ce n'est pas ton bien qu'il veut. Il veut juste te contrôler, te limiter. Fais-le, décide toi-même ce qui est bien et du mal. Tu vas devenir comme Dieu. Et c'est le choix que l'être humain a fait. Et là, il faut regarder ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a arrêté de croire qu'il y avait tout pleinement. La relation a été brisée. Et regardez ici, là. Ève et Adam ont perdu cette vie de Dieu en eux. Ont été séparés de Dieu. Il y a eu cette mort. Vous savez, il y a encore un petit peu de la vie de Dieu en l'être humain. Assez qu'il se pose des questions que les autres êtres de la création ne se posent pas. Il y a la pensée de l'éternité dans le cœur de l'être humain. Quelque chose qui dit qu'il doit avoir autre chose. Il doit avoir quelqu'un en haut. Il doit avoir quelque chose d'autre. Ça ne se peut pas que je me lève le matin, je vais travailler, je me couche le soir, je sors ça le lendemain, puis à la fin de ma vie, il n'y a rien. Il y a la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. L'homme cherche. Et une vie sans Dieu a commencé à se vivre sur terre. Et la Bible appelle ça un monde obscur, un monde de ténèbres, un monde sans Dieu. Et ces privilèges-là qui étaient de la vie, de l'union avec Dieu, sont devenus des besoins que l'être humain essaye de combler. L'être humain s'est multiplié sur terre, mais chaque être humain avait cette image de Dieu flou, troublé, dilué en lui. C'était principalement cette bios, mais encore un peu de l'image de Dieu. Comme je disais, assez pour se poser des questions, comme chacun de nous autres, on s'en pose à un moment donné dans notre vie. L'être humain s'est mis à chercher dans ce monde, selon ses ressources, selon ses moyens, des choses, des moyens pour combler ses besoins essentiels de l'être humain profond. Depuis le début des temps, l'être humain cherche autour de lui pour combler ses besoins. Et vous et moi, on est là-dedans aussi. Pour combler ses besoins d'identité, d'un sens. Pourquoi je suis là? C'est quoi le but de ma vie? Être aimé, trouver la joie, se sentir notre estime personnelle, une autorité pour notre sécurité. La Bible dit la conséquence du péché, c'est la mort. Je veux définir un peu ce que c'est le péché ici. Parce que c'est mal compris et c'est pas populaire de parler du péché. Le mot péché, ça veut dire manquer le but. Ou chercher à la mauvaise place ce que je vais trouver ailleurs. Mettons que j'ai cet appareil-là ici, qui est là. Je suis en train de le chercher ici. Quelqu'un dit, peut dire, « Hey, tu es en train de pécher. » Dans l'original du mot, ça veut dire « chercher à la mauvaise place que je vais trouver seul, ailleurs, à la bonne place, ici. » Donc, dans le cas ici, le mot « péché », ça veut dire « chercher ici ce que je vais trouver seulement en Dieu. » Et chercher ici, ça mène à l'échec, à la ruine et à la mort. On ne s'en sortira pas. Ça aboutira pas. La Bible dit aussi, tous ont péché. Ils sont privés de la présence de Dieu. Tous. Donc, ce n'est pas juste quelques-uns, là. Nous tous. Tous, depuis la fondation des temps, ont péché. Ça veut dire qu'ils cherchent à la mauvaise place. Ils cherchent en eux-mêmes les solutions. Eux-mêmes à définir ce qui est bien et mal. Eux-mêmes à s'en sortir. Eux-mêmes à combler leur vie. Mais ils ne s'en sortiront pas. Ils sont privés de rencontrer Dieu. Et l'être humain, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche des moyens pour atteindre Dieu. Il se crée des religions. Il se crée des moyens rituels. Il se crée il s'impose des sacrifices, il s'impose des rituels. Il se dit, si je fais des bonnes œuvres, peut-être que Dieu va m'entendre. Peut-être que Dieu va m'accueillir. Si je suis sincère, c'est ça qui compte. Dieu va m'aimer. Mais l'être humain est là. Puis il pourrait dire comme papa, ben, c'est comme ça. C'est comme ça que je suis. Puis je ne pourrais pas m'en sortir. Telle voie paraît droite à un homme ou une femme, mais son issue, c'est la mort. On a beau avoir des solutions, si je fais tel rituel, si je fais tel sacrifice, si j'aime tout le monde, si je donne tous mes biens, peut-être que Dieu va m'accueillir. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Nous étions tous errants, nous dit la Bible. Chacun suivait sa propre voie pour essayer de s'en sortir, pour essayer de combler ses besoins du cœur. On a commencé à utiliser nos propres moyens. Vous savez, si on se met à réfléchir, qu'est-ce que les gens font pour combler ce besoin d'identité dans leur vie? Ça peut être leur performance. Si je performe, là, je me sens quelqu'un. Si j'accomplis, si j'ai une belle famille qui marche droite, là, je me sens quelqu'un. Ça peut être dans les vêtements que je porte. Ça me reflète bien. Ça peut être dans le style de vie que j'ai, dans la voiture que j'ai, dans la maison que j'ai, ou le style, les gens que je fréquente ou ceux que je fréquente pas définissent mon identité. On le voit beaucoup quand on est jeune, on grandit, on joint telle gang. Je me suis mis à fumer, moi. Commencer à prendre de la drogue pour m'identifier à une gang, pour me sentir accueilli, me sentir aimé aussi. Les gens qui se font pour le besoin d'amour, ils sont prêts à renoncer à tout ce qu'ils sont pour aimer. On entend des histoires horribles, des fois, de jeunes filles, de jeunes hommes qui ont permis des choses sur eux autres parce qu'ils avaient besoin d'être aimés, pour se sentir aimés. Le besoin de joie. On essaye toujours la nouvelle chose à la mode qui me dit « ça va te rendre heureux. Si tu n'as pas ça dans ta vie, tu ne seras pas heureux. » L'homme cherche à combler. Et si vous creusez, on est tous là. Et ce n'est pas que ces choses-là sont mal, sauf qu'ils ne produiront pas ce qu'ils nous prétendent qu'ils vont produire. Besoin d'autorité. Ce besoin d'autorité, des gens vont abuser. Des gens vont abuser, vont faire de l'abus d'autorité, de l'abus de pouvoir, vont blesser des gens, vont créer des tensions, des querelles et la sécurité. On a tous différentes façons d'exprimer notre sécurité ou de se sentir sécure. Pour d'autres, ça va être un gros compte en banque. D'autres, ça va être un garde-manger rempli. D'autres, ça va être un système d'alarme, c'est ma sécurité. Tout le monde, même le sans-abri. C'est son banc de parc, c'est son coin de balcon, c'est son entrée de banque, c'est son bout de carton. Sa sécurité est là. L'être humain cherche à combler ses besoins dans ses propres moyens. Et la Bible appelle ça des faux dieux. Parce qu'ils donnent un faux espoir. Et encore là, ces choses-là ne sont pas mauvaises, nécessairement. C'est juste qu'on leur donne un pouvoir qu'ils n'ont pas. On y goûte un petit peu. Oui, là, je me sens sécure, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens valorisé. Puis, ouf, ça part. Et quand on se sent menacé dans notre estime, on a développé des comportements, des habitudes, des réflexes pour essayer de que ça ne soit pas vu. On va se mettre à mentir pour cacher qui on est vraiment. On ne dira pas vraiment qui on est parce qu'on ne veut pas que les gens nous perçoivent mal. Et on a développé des tendances, des réflexes qui fait qu'on est là constamment à chercher à combler ses besoins profonds, profonds de l'être humain dans des moyens ici. Mais la Bible nous dit l'issue, c'est la mort. C'est l'échec. On ne s'en sortira pas. Dieu a donné les commandements. En fait, c'est ses commandements à lui. Et ces commandements, c'est des genres de règles de vie. Mais les commandements, vous savez, il les a cités tout à l'heure, c'est excellent. Tu sais, tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur. Tu n'en auras pas d'autre devant toi. Tu ne te confieras pas en aucun autre Dieu. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas. Ces commandements-là nous reflètent le cœur de Dieu, nous reflètent qui est Dieu, nous reflètent le souci de Dieu dans notre relation avec lui, mais dans nos relations les uns avec les autres. Je veux que vous soyez bien et voici la manière de vivre. Mais ces commandements n'amènent pas la vie. Ces commandements-là, ce n'est pas en suivant les commandements qu'on va avoir cette vie de Dieu-là en nous. Ce n'est pas leur but, ce n'est pas leur raison d'être. Le but des commandements, c'est de nous faire montrer combien nos ressources ne peuvent pas nous en faire sortir. Combien je suis pris là, combien je suis pécheur. C'est-à-dire que je cherche à la mauvaise place et en moi, je ne pourrais pas m'en sortir par mes propres ressources. En moi, je n'ai pas ce qu'il faut pour m'en sortir. Le but des commandements, c'est ça. Et Paul va le dire comme ça ici. Oh. Ah, ça va être bien. Il va dire, s'il n'y avait pas eu le commandement, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'elle a convoité si le commandement n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Les commandements nous montrent, commencent à nous montrer le bien et le mal à la lumière de Dieu, selon Dieu. Paul il dit, si le commandement ne disait pas ça, je ne sais pas moi que c'est mal. Donc Dieu, les commandements sont là pour nous montrer, tu vois ce qui n'est pas bien selon Dieu et comment tu n'arrives pas à le suivre. L'homme peut se sentir juste. Moi, je suis correct. Je suis une bonne personne. Je n'ai jamais fait de mal. On dit souvent ça. Je n'ai jamais tué personne, heureusement. Mais quand le commandement arrive, il montre que finalement, je ne suis pas si juste que ça. Vous avez déjà entendu cet exemple-là d'une fenêtre, puis il rentre un rayon de lumière, puis là, tu vois plein dans le rayon de lumière, plein de petites poussières. Là. Puis la pièce que tu pensais très, très propre, elle est probablement propre, mais il y a de la poussière dedans. Il y a de la poussière qui fait qu'elle est plus pure. Et le commandement sert à ça, à nous montrer que dans la vie, finalement, ce n'est pas si clean que ça. Et ensuite de ça, Paul, quand il cite ça dans Romains, dans l'Épître aux Romains, il dit « Dans mon être intérieur, je prends plaisir dans les commandements de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est aussi à l'œuvre dans mon corps, qui me conduit à la mort. Il y a une loi dans mon corps, qui me conduit à la mort. Les commandements de Dieu, je les aime, ils sont bons, ils sont vrais, je les vois, et puis personne ne serait contre si tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. » Personne n'est contre ça. Surtout ici, dans notre pays, on a été l'influence de ces commandements-là. On a été présents ici, on a grandi avec ça. Mais Paul dit, après ça, il dit, « Pourtant, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Je n'arrive pas à faire ces commandements-là. Je n'arrive pas à les suivre, je n'arrive pas à les appliquer. Il y a quelque chose en moi qui se passe qui fait que je n'arrive pas à les faire, mais ce que je veux faire, je n'arrive pas. Puis ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. » Et là, il peut dire comme papa, il dit, « Ben, je suis comme ça. C'est comme ça la vie. C'est comme ça que je suis. Mensonge. Mensonge. » Chacun de nous a ses propres conceptions de ce qui est juste et ce qui est faux, de ce qui est bien et mal. Tout dépendant où vous avez grandi, dans la famille que vous avez évolué, dans la culture que vous avez grandi, l'éducation que vous avez reçue, les influences qui vous ont affecté, les livres que vous avez lus, les expériences que vous avez vécues ont défini pour vous ce qui est juste et mal, ce qui est bien et mal, ce qui est vrai et faux. Chacun des êtres humains sur Terre a formé sa propre définition de ce qui est juste. Au lieu de dire, hey, pourquoi qu'on n'écouterait pas celui qui nous a créés, celui qui nous a façonnés, celui qui nous a désirés, celui qui nous a aimés, celui qui nous a bâtis, qui connaît chacune des fibres profondes de notre corps. Pourquoi qu'on ne se mettrait pas à son écoute, à lui plutôt, que nous autres-mêmes définir nous-mêmes par nos propres raisonnements ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Paul va dire, au lieu que ce que papa il va dire, Paul va se poser la question, ben, malheureux que je suis, qui peut me délivrer de ce corps voué à la mort? Qui peut m'en sortir? Je suis pris là. Je suis pris ici et je ne vois pas de moyen. Je n'arrive pas à m'en sortir. Le bien que je veux faire, je le veux. J'aime les commandements de Dieu. J'aime Dieu, mais je n'arrive pas à appliquer ça. Je n'arrive pas à vivre ça. Comment je vais faire pour m'en sortir? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il n'y en a pas d'issue. Pour nous. Par nous. Mais la Bible, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, la Bible. Tout de suite après ça, Paul va dire, « Dieu soit loué par Jésus-Christ, c'est possible. » OK. Qu'est-ce que Jésus vient faire là-dedans? Pourquoi c'est possible par Jésus-Christ? Et j'espère que ceux qui connaissent l'histoire de la Bible, ça puisse juste nourrir quelque chose de plus pour faire voir à quel point cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Pour ceux qui ne connaissent pas ce message, qui l'entendaient peut-être pour la première fois, ou c'est vague, c'est pas clair, j'espère que vous allez voir à quel point cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Deux petits bonhommes en bas ici. Marie et Joseph. La même nature que tout le reste de la création. Pas plus pur. Cette bios en eux, un petit peu de cette Zoé, cette vie de Dieu, assez pour dire, je veux aimer Dieu. Si Marie et Joseph ont un enfant, cet enfant-là va être de même nature que Marie et Joseph, avec cette vision, cette image de Dieu diluée, affectée, qui a affecté leur vision du monde, parce que c'est obscur, on voit encore en travers, mais pas aussi clair que tout à l'heure. On voit encore, mais c'est flou, c'est pas aussi clair. On a une vision de Dieu qui est erronée, qui est floue. On a une vision des autres qui est erronée, on a une vision de nous-mêmes qui est erronée. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche ailleurs, on veut combler ce besoin, avoir clair, amener la lumière. Si Marie et Joseph ont un enfant, ils vont être de même nature que eux. C'est pour ça que Dieu a dû intervenir par son esprit. Et Dieu est intervenu et envoyé son esprit sur Marie qui a donné naissance à un être humain qui s'appelait Jésus. Et Jésus était de même nature que Dieu, le premier être vivant depuis la création qui a cette vie de Dieu en lui. C'est pour ça qu'on l'appelle le nouvel Adam, le second Adam. Jésus avait cette vie de Dieu en lui. Jésus est la vie. Il ne dit pas « je vous montre la vie » ou « j'ai la vie ». Jésus est la vie. Il est la lumière pour tous les êtres humains. Celui qui montre la véritable chose, les vérités, qui montre le vrai chemin. Jésus est la vie. Mais la Bible, quand elle nous parle de Jésus, elle va beaucoup plus loin que ça. Elle nous dit, ensuite de ça, Dieu est devenu un homme. Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Il va continuer comme celle en Jésus. Wow! Là, la Bible va beaucoup plus loin. Là. Il est en train de nous faire comprendre que Jésus, c'est Dieu qui a pris une forme humaine pour marcher sur cette terre. Pleinement homme, parce que Jésus a passé par le même chemin que chacun de nous autres pour venir naître. Mais Dieu est intervenu là-dedans. Et Dieu était pleinement homme, mais pleinement Dieu. Vous voyez un autre texte ici qui nous dit « Jésus, qui est de condition divine, s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. » Il s'est humilié lui-même en étant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus a vécu la vie qu'on est appelé à vivre, mais a subi la mort qu'on est censé subir. Il a été obéissant jusqu'au bout. Il n'a jamais péché. Il nous a montré qu'est-ce que c'était de vivre une vie en se confiant en Dieu, en faisant confiance à Dieu. Mais il a été mis à mort sur la croix. Lui qui ne méritait pas ça. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté ça. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Il a été percé à cause de nos péchés. Il a porté la conséquence de nos fautes et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Il a été percé à cause de notre péché, notre tendance à toujours, ou notre habitude, ou notre façon de faire, de chercher toujours en nous, ailleurs qu'en Dieu, pour nos vies. Pour les besoins de nos vies, pour la vie, pour nous sauver. Sauver de cette incapacité ici à s'en sortir. Sauver de cette mauvaise nouvelle qu'il n'y a pas de solution pour moi ici, je suis pris là. Je vais prendre un instant pour parler de l'amour et de la justice de Dieu. Parce que c'est un concept important qui revient dans la Bible constamment. Dieu n'est pas juste amour, mais il n'est pas juste juste. S'il serait juste amour, là, tout le monde serait là. Ah, t'as abusé des gens? Viens-t'en, tu feras mieux la prochaine fois. Ah, oh, t'as violé des enfants? Ah, oh, ben viens-t'en, tu feras... Fais plus ça, par exemple. Viens-t'en, là, tu seras mieux la prochaine fois. Tout le monde serait là. Dieu est amour, accepte tout le monde, il veut aimer tout le monde. Tu vas t'en sortir, viens-t'en. Mais Dieu n'est pas juste amour. Il veut que tout le monde rentre dans sa présence. Mais c'est un Dieu juste aussi. Un Dieu juste, Si Dieu serait juste, juste, personne de nous autres serait là. Parce qu'on a tous été là. Ou on est encore là. Mais heureusement que Dieu est amour et juste. Ce qui fait, vous connaissez l'exemple du juge, hein? C'est comme si moi je passe en cour parce que j'ai commis une infraction horrible. Et là, je passe en cour, puis le juge dit, « T'es coupable. T'es coupable. » Mais le juge dit, « Écoute, prends ma place, moi je vais prendre la tienne. Je vais aller subir la condamnation pour toi. » C'est ce que Dieu a fait. Vous savez, l'amour de Dieu se manifeste comme ça. Je peux dire, « Hey, je vous aime. » Mettons que je suis Dieu, OK? Je ne suis pas Dieu, là, je ne me prends pas pour Dieu, mais mettons que je suis Dieu. Puis je dis, « Je vous aime tellement. Là. Je vous aime tellement que Gilles, écoute, je vais t'envoyer, tu vas donner ta vie pour eux autres, OK? » Et que, je vous aime tellement que Gilles va payer le prix pour vous autres. C'est de l'amour. Vous savez, la Bible nous parle de Jésus comme le Fils de Dieu. Mais quand il parle du Fils de Dieu, il ne parle pas qu'il est un enfant de Dieu. Fils de Dieu est un statut, est un titre qui est utilisé à cette époque-là pour dire celui qui vient au nom de Dieu, celui qui vient avec l'autorité de Dieu. Jésus veut dire Dieu sauve. L'autre nom de Jésus, c'est Emmanuel qui veut dire « Dieu est parmi nous, avec nous. » Donc Dieu nous montre son amour, la grandeur de son amour et de sa justice en disant « Écoute, moi-même, je vais aller sur terre et je vais y aller, moi-même payer le prix pour vous parce que je tiens à vous. » La mort, la résurrection sont importantes. Par la mort, Jésus me dit « Tu vois à quel point je tiens à toi, à quel point tu as de la valeur pour moi, à quel point je t'aime. » Puis par la résurrection, il nous dit, « Tu vois qui je suis. Je suis la vie. Jésus est la vie. La mort ne pouvait pas le retenir. Oui, il l'a souffert. Oui, ça a été douloureux. Oui, ça a été atroce. Il a subi la mort. Il a accepté de subir cette souffrance-là parce qu'il nous aime. Il nous veut avec lui. Il veut restaurer cette relation-là. Il ne veut pas qu'on aille à payer le prix ici. Vous savez, Dieu n'envoie personne en enfer. Le chemin, l'issue ici, c'est la mort. Ce que Dieu fait, c'est qu'il veut nous sortir de là. Il tout fait, il est venu lui-même sur terre, payer le prix. Et par la résurrection, il nous dit, « Je suis la vie. Tu vois quelle puissance que j'ai, que je mets à disposition. Ce que je te promets que je vais faire dans ta vie, j'ai la capacité de le faire. » Regardez à la croix. Jésus, en venant ici, a ouvert un chemin. Le chemin pour avoir aller à Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu. Nul ne peut avoir cette vie s'il ne passe pas par moi. » Tu veux goûter à la présence de Dieu? Ça passe par Jésus. Tu veux connaître la vérité? Ça passe par Jésus. Tu veux goûter à la vie? Ça passe par Jésus. Jésus, maintenant, te voit au travers Jésus. Il va plus loin après ça. Il dit d'autre part, c'est un fait certain maintenant. Un fait certain. Il n'y a pas de condamnation. Si on n'est plus condamné à être là, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a un grand rôle là-dedans. C'est la bonne nouvelle. On peut avoir accès à Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était en Jésus-Christ et nous introduit dans une relation avec Dieu. Et là, dans l'histoire de la Bible, il nous rentre une nouvelle information là. Et il y a une vie avec l'Esprit et une vie selon la nature humaine. Et ici, cette vie-là où moi, je m'appuie sur mes propres ressources, mes propres moyens, la Bible appelle ça « vivre selon la nature humaine ». D'autres versions vont dire « vivre selon la chair » ou « vivre selon le vieil homme ». Avec ses propres ressources, ses propres moyens, ses propres capacités. Et vivre selon l'Esprit. Et la Bible nous dit qu'on est appelé à vivre selon l'Esprit de Dieu parce que c'est ce même Esprit qui est en Jésus qui veut venir en nous. Il nous rend capable de vivre cette vie-là. Il nous dit après, « Cette puissance vivifiante qui est l'Esprit me soulève du cercle vicieux du péché et de la mort et me permet d'échapper au régime de la nature humaine qui me menait à la ruine. » Cet Esprit m'enlève, me tire de là pour me faire vivre avec Dieu, me tire de cette cercle vicieux que j'essaye, ça m'échappe encore, ça me mène à la mort. Il me tire de là pour m'emmener à vivre cette vie. L'Esprit fait ça. Mais il va nous donner une information importante ici aussi. Vous ne vivez plus sous la direction de la nature humaine. Vous n'êtes plus sous ce régime-là. Mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu est en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc là, il est en train de nous dire qu'il y a des gens qui ont cet esprit, puis il y a des gens qui n'ont pas cet esprit. Il va le dire différemment ici. Il dit, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. où il va dire quelque chose comme ça. Certains, pourtant, sont venus à Jésus. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il leur a accordé le privilège de recevoir cette vie et de devenir enfants de Dieu. Jésus, quand il était sur terre, il faisait une invitation. Il disait, « Venez à moi. » Et c'est encore cette invitation-là qu'il fait aujourd'hui. « Venez à moi, ceux qui veulent cette vie. Venez à moi, tous ceux qui sont fatigués. Tous ceux qui veulent la paix. Tous ceux qui sont inquiets. Tous ceux qui sont insécures. Tous ceux qui ont besoin d'être aimés profondément. Tous ceux qui cherchent la joie. Tous ceux qui se sentent bons à rien. Viens à moi. » Et le moyen de faire ça, c'est par la foi. Il n'y a rien qu'on peut faire ici qui va nous faire recevoir cette vie-là. Rien. Un texte qui dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez pu accomplir ou que vous auriez accompli. Tout le monde a la foi ici. Tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi sur terre. Quand je me confie dans mes ressources que j'ai déployées ici, je mets ma foi dans ces ressources-là et j'espère que mon futur va être meilleur. Je mets ma foi dans les moyens que j'ai développés dans ma vie pour ma sécurité, pour mon estime, pour ma joie, pour ma paix, en espérant que ces choses-là vont m'apporter. J'ai la foi que ces choses-là vont m'apporter ce que je cherche, ce que mon cœur désire. Dieu nous a dit que ça mène à la mort. Mets ta foi en moi, dit Jésus. Je suis celui. Et ce n'est pas de foi qu'on est appelé à le faire. Deux autres ingrédients aussi pour venir et recevoir et venir à Jésus, c'est la confession et la repentance. Deux éléments simples, mais il faut les comprendre. Confession, ça veut dire je me mets d'accord avec Dieu. Le mot qui est utilisé, c'est homologeos. Vous savez, on dit mon homologue là, dans l'autre entreprise, c'est celui qui fait la même chose que moi. En fait, Dieu nous dit, mets-toi d'accord avec moi. Je cherchais ici par mes propres moyens. Puis je ne peux pas m'en sortir. Ça me mène à la mort. J'y vais par la foi. Dieu, tu me dis ça, je veux te croire parce que j'ai foi en toi. Et la repentance, ça ne veut pas dire changement de comportement. Repentance, ça veut dire je change ma façon de penser. Avant, je pensais ça. Maintenant, je décide de croire Dieu et mettre ma foi en lui. Donc, je dois venir à Jésus. Et regardez le petit bonhomme ici. Juste celui-là. Là. Il s'appelle vous. Vous se déplace, puis il s'en va au pied de la croix. Puis il dit à Dieu, Seigneur, j'en peux plus. Oui, j'ai essayé toutes mes forces. J'ai eu des moments de joie, j'ai eu des moments de sécurité. J'ai eu où je me sentais sécure, bien, valorisé, parce que les autres me disaient tout le temps que j'étais bon ou j'étais bien. Mais je me vois que je ne m'en sors pas. J'ai besoin de toi. Je veux me tourner vers toi. Je veux ta vie pour laquelle Jésus est mort sur la croix, pour que moi je reste plus là, mais je puisse rentrer en ta présence. Et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que cette vie vient en moi. La vie de Dieu et l'Esprit de Dieu vient en moi. Et regardez le petit bonhomme ici aussi, c'est le même. C'est juste dans son cœur, il est allé au pied de la croix. Puis il a confessé qu'il était ce qu'il comprenait et que Dieu était la solution par Jésus-Christ. Maintenant, d'autre part, le même texte que tout à l'heure, c'est un fait certain, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lui a reçu l'Esprit. Lui a donné sa vie à Dieu. Lui est venu à Jésus. Il a compris, il a confessé, il a repenti, c'est-à-dire il a changé son allégeance. Je ne veux plus croire ça, mais je me tourne et je crois ça maintenant. Nous sommes considérés justes. Nous qui croyons en Dieu, qui a ramené d'entre les morts Jésus. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. Quand on fait ce pas-là, Dieu ne te voit plus toi seulement. Il te voit au travers Jésus. Il te voit juste. Rentre dans la paix de ton Seigneur, nous dit la Bible. Nous dit Dieu. On a accès à Dieu. On a accès à cette vie-là. À tous ceux qui ont placé leur foi en lui. Il leur a accordé le privilège de recevoir cette vie et devenir un enfant de Dieu. Un privilège. Vous voyez, un privilège, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Celui qui a la vie, celui qui a Jésus, a cette vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas cette vie. Je vous ai écrit ces choses, nous dit Jean, afin que vous sachiez que vous avez cette vie éternelle. La Zoé, cette vie de Dieu, vous qui placez votre foi en Jésus. Je vous ai écrit ça, Jean nous dit, pour que vous compreniez, vous saisissiez que vous avez la vie. Pas vous espériez peut-être qu'un jour, si je suis assez bon, je vais l'avoir. Vous l'avez. Comment? Parce que vous avez mis votre foi en celui que Dieu a envoyé, dans la solution de Dieu. Ceux qui ont fait ça, Dieu vous dit, vous êtes la lumière, une lumière parmi les nations. Vous êtes mes témoins parmi les nations. Vous êtes le sel de la terre. Vous savez, dans le monde, dans l'Église, dans l'Assomption, au Québec et dans le monde, il y a des gens qui ont fait ce choix-là de suivre Jésus, de mettre leur foi en Jésus. Plein. Des millions au travers les temps. C'est ce que la Bible appelle l'Église. Des gens qui ont mis leur foi en Jésus, qui veulent se confier et apprendre à saisir ce que ça veut dire la vie éternelle, avoir cette vie éternelle-là. Oui, mais moi, j'ai cette vie-là. J'ai fait ce pas-là, je le sais, je l'ai, la vie. L'Esprit de Dieu le dit en moi, j'ai cette vie, je suis un enfant de Dieu maintenant. Dieu m'a accueilli comme un enfant, mais je me débat tellement avec mon estime tout le temps, avec mon insécurité. Je retombe encore dans les mêmes choses que je n'aime pas et que je fais les choses que je ne veux pas faire, puis ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Comment ça se fait? Je l'ai, cette vie-là en moi. Comment ça se fait? Paul dit à Timothée, saisis, comprends de mieux en mieux cette vie éternelle-là. Et c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Comment saisir, s'approprier, saisir profondément cette vie-là pour vivre les victoires, vivre la paix pleinement, expérimenter cette vie éternelle-là pleinement dans nos vies. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ton message qui se tient d'un couvert à l'autre. Comment ton message, tu nous l'as révélé au travers des siècles pour nous faire voir quelle est la grandeur de ton amour. Seigneur, qu'on puisse voir, comprendre, saisir combien grand, combien haut, profond, large et long est ton amour pour nous et combien on a tout pleinement en toi. Seigneur, il y a peut-être des gens ici qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas fait ce pas-là. Je vous encourage ce matin à faire ce pas dans vos cœurs, à venir au pied de cette croix où était Jésus, qui est mort pour vous, qui a offert sa vie pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce que Jésus a fait, c'est ça pour toi. Reçois son esprit, reçois cette vie. Reconnais que par tes propres forces, tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras jamais. Mais Dieu t'aime assez. Tu as tellement de valeur pour lui qu'il t'a tendu la main au travers Jésus, pour dire, viens à moi. Merci Seigneur, pour ton amour pour chacun de nous. Bénis cette communauté-là et qu'ensemble, tu puisses nous emmener plus loin à saisir tout l'impact, toute la portée de cette vie que tu nous offres. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.